Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Et oui, on est le mardi 22 octobre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu de construction à partir de 8 ans. Et puis, on retrouvera, comme tous les mardis, Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Quoi Neuf dans la boutique. Et il y a plein de choses qui vont arriver dans la boutique, forcément, puisque plus on va s'approcher de Noël et plus il y aura de jeux. Et bien, C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, donc, c'est 7 pièces pour un château de Daniel Fritzelius, l'illustrateur de Terraforming Mars. Mais côté illustration, il a laissé Naomi Fritzelius au pinceau. Alors une chose est sûre, ça reste en famille, les jeux chez les Fritzelius. Alors ce jeu de construction et pose de tuiles est édité par Intrafin pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Votre but, construire le plus beau château du royaume en accumulant 7 pièces d'or. D'où le nom 7 pièces pour un château. Au niveau de la mise en place, vous déplier le plateau du marché avec le beau château tout en 3D. On dispose toutes les tuiles hexagonales face cachée au milieu de la table. C'est la réserve. On ajoute 3 de ces tuiles au marché. Chaque joueur prend 3 tuiles de la réserve qu'il pose sur son porte-tuiles. Les pions barons, eux, sont placés sur le plateau. Il ne vous reste plus qu'à poser votre mini plateau fondation devant vous. Voilà, vous êtes prêt à construire votre château. Mais alors, comment on joue ? À votre tour, vous avez 2 options qui s'offrent à vous. Alors, soit vous piochez 2 tuiles, soit vous allez en construire une. Prendre 2 tuiles, rien de bien compliqué. Vous les prenez au centre de la table, dans la réserve, et vous les posez sur votre porte-tuile. On ne peut pas prendre une tuile du marché. Attention, votre porte-tuile ne peut en contenir que 7. Les autres, il faudra les défausser. Mais les défausser face visible, ça voudra dire que les autres pourront les prendre ensuite. L'autre action, donc, c'est de construire votre tuile. Vous allez placer l'une de vos tuiles ou du marché, vous pouvez prendre une du marché, sur votre fondation. Mais attention, il y a pas mal de conditions. Alors déjà, par rapport au paysage, on ne peut pas placer de la pierre sur du ciel, ou vice-versa, ni une pierre dans le vide. Certaines tuiles devront être placées à un étage, où il y a déjà des tuiles construites. Mais attention, ce n'est pas tout, car les tuiles ont des numéros, et il va falloir faire des additions. Par exemple, si vous avez une tuile 3 et 2 à côté, la tuile qui sera au-dessus des 2 devra avoir le numéro 5, car 3 plus 2 égale 5. Mais certaines tuiles ont 2 numéros. Une, donc un numéro en bas et un numéro en haut. Le numéro du bas va servir quand on pose la tuile, alors que celui du haut sera utilisé pour le calcul quand on posera une tuile dessus. Vous allez voir, ce n'est pas si évident que ça. D'autres tuiles n'auront pas de contraintes et pourront être posées même si la somme ne correspond pas. Et bien sûr, toutes les tuiles, si elles respectent le paysage, peuvent être placées à la base de votre château. Voilà, on peut augmenter ou diminuer de 1 la valeur si on défausse une tuile. Vous avez besoin d'un 9, mais vous avez une tuile 8, et bien vous pouvez la poser. En contrepartie, vous défaussez l'une de vos tuiles qui était posée sur votre porte-tuile. A chaque fois que vous placerez une tuile, vous déplacez votre pion baron sur le plateau du marché en fonction de l'étage où vous avez posé la tuile. Et vous ajoutez les rubis présents sur cette tuile. Exemple, je pose une tuile au deuxième étage avec 2 rubis. Et bien j'avance mon baron de 4 cases, 2 pour l'étage et 2 pour les rubis. En passant par des cases pièces ou en vous arrêtant dessus, vous prenez l'une des 3 pièces. Il y a un effet dessus, vous faites l'effet et après vous gardez la pièce. Le but du jeu étant d'en avoir 7. Dans le jeu, il y a de l'interaction car l'effet de la pièce catapulte sera de retirer une tuile du château d'un adversaire ou de défausser une tuile au hasard à chacun de vos adversaires. Au total, il y a 11 effets possibles sur les pièces. La partie s'arrête immédiatement dès que l'un des joueurs a cette pièce devant lui. Alors ce que j'en pense de cette pièce pour un château, déjà c'est un jeu accessible, mais stratégique, car il faut bien réfléchir quand on construit son château. Et plus votre château sera haut, et plus il vous rapportera des pièces. Mais bien sûr, pour l'élever, il lui faut des fondations, et bien respecter les numéros. Une chose est sûre, c'est parfait pour les enfants, pour avoir leurs additions en s'amusant. Il existe aussi des variantes que je vous laisserai découvrir. Voilà, ça s'appelle donc 7 pièces pour un château, et ça sort cette semaine chez Intrafin. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Quoi de Neuf dans la boutique.
Je suis pas prêt pour
c'est ludique, Quoi de Neuf dans la boutique.
Et comme tous les mardis, on va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors aujourd'hui, Quoi de Neuf dans la boutique, Jonathan?
Eh ben, je ne sais pas, Mathieu, parce que je suis en vacances.
Oui, je suis désolé de t'appeler pendant tes vacances.
Non, mais j'ai tellement décroché du travail que j'ai oublié de te prévenir que je suis en vacances. Et du coup, j'en profite pour jouer à plein de jeux de société.
D'accord.
Donc, un petit peu des nouveautés. Puis, j'en ai profité pour jouer aussi à décrocher un peu de tout ça et puis à jouer des choses un peu anciennes et beaucoup plus anciennes.
Ok.
Beaucoup joué à Foremix du coup pendant les vacances de Koch, hein, vraiment.
Ouais.
J'avais oublié à quel point c'était bien. Je pense que pour les gens qui aiment tout ce qui est jeu salade de points et comptage de points astronomiques dans tous les sens, Foremix c'est vraiment exceptionnel.
En plus, il y a des extensions de Foremix, je crois, hein, qui
sont
sorties.
Ben voilà, j'avais pas eu le temps de les essayer. J'ai essayé les extensions de Foremix, c'est très bien. Hein.
Ouais.
Ça change pas énormément le jeu, mais ça te rajoute un peu de possibilités différentes, ça renforce un peu quelques stratégies qui étaient peut-être un petit peu faiblardes dans le jeu de base et ça rééquilibre tout ça, donc c'est très bien.
Il y a beaucoup de choses à calculer hein, dans Foremix.
Effectivement, le jeu est pas si compliqué, mais compter les points à la fin de la partie, c'est un peu la grosse difficulté du jeu.
C'est ce que je trouve le plus dur.
Quand t'as 70 cartes devant toi à la fin et que tu fais toutes des points, ça fait un peu des nœuds au cerveau, mais le jeu est vraiment exceptionnel. Et puis j'ai eu l'occasion aussi hier soir de jouer un jeu, alors je sais pas si tu connais, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est Codenames de Vladaj Vatil.
Codenames Mais oui Codenames, oui, je connais bien.
J'ai fait une petite dizaine de parties hier soir, et puis on a commencé, et puis on n'a pas su s'arrêter. Ce jeu est vraiment... si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui n'a pas joué à Codenames, il faut jouer à Codenames.
Oh, bah oui.
C'est pas pour rien que c'est l'un des jeux les plus marquants de ces 10 dernières années.
C'est un grand classique.
Ouais, pour moi, la plus grande référence du jeu d'association d'idées.
C'est un grand classique et qui n'a pas eu l'As d'or parce qu'il est tombé sur une année où y avait toutes les grosses sorties, King Domino, Unlock, Codenames,
ouais,
je crois que c'était Imagine le dernier. Donc c'était.
Ouais. La compétition était rude, mais c'est vrai que force est de constater qu'aujourd'hui Unlock, ça reste quand même aussi.
Bah oui.
C'est un événement à chaque sortie d'Unlock en boutique. Hein. C'est le seul jeu où on sait qu'il y a des foules qui vont se déplacer pour acheter le nouveau Unlock. Mais bon, Codenames, ça reste aussi un des tops des ventes. Hein. C'est toujours chaque année dans le top 5 des plus grosses ventes de l'année de la boutique. Les gens viennent le chercher et nous, on conseille aussi, ça reste une évidence si quelqu'un n'a pas joué à Codenames de lui proposer de jouer à ça.
Tu joues beaucoup pendant tes vacances, Jonathan? Parce que en général, quand on bosse dans un magasin de jeux et après qu'on est en vacances, tu continues à jouer.
J'ai la chance de beaucoup aimer jouer à des jeux de société, donc
c'est un avantage.
Je fais 5-6 parties de jeux par jour, je pense.
Ouais, d'accord.
Donc je varie un peu. Je vais jouer à Foremix, des choses comme ça avec ma conjointe et puis avec les enfants. Là, en nouveauté, on a beaucoup joué à Opération Noisette chez Ozu.
Ah oui, l'arbre.
Avec l'arbre, pour moi, c'est le jeu enfant qui m'a le plus marqué cette année.
D'accord.
C'est un jeu pour tout petit. Et je trouve ça très rare qu'il y ait un jeu pour tout petit. On est vraiment sur du premier jeu pour découvrir le jeu de société qui sorte du lot. C'est dur de faire, je pense, un excellent jeu pour 3 ans. Et là, déjà, il y a une mise en scène incroyable dans Opération Noisette. On va avoir un arbre en 3 dimensions qui vient se ficher sur la boîte. Donc, je sais pas, ça fait peut-être 30 cm de haut.
Ouais.
Et l'idée, c'est qu'on joue les petits écureuils qui veulent récupérer les noisettes qu'ont volées la belette. Donc, on attend que la belette s'endorme pour essayer de lui rechipper ses noisettes et les cacher dans notre arbre.
Ouais.
Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque tour, on va voler une ou deux noisettes, la rentrer par des trous de l'arbre, c'est le dé qui va nous imposer quel trou on va devoir utiliser, et là on écoute la noisette dégringoler dans l'arbre, et si ça touche la table, ça fait du bruit, et la belette commence à se réveiller. Donc il y a une mise en scène qui marche vraiment bien pour les petits, c'est super simple d'accès, plaisant à manipuler, et puis un plaisir dans le matériel.
Bah oui.
Donc là, Opération Noisette, c'est excellent, et là on joue tous les jours... les noms des auteurs, je vais être incapable de les redire de tête parce que c'est des noms d'Europe de l'Est. C'est le jeu Château d'Avel, les chroniques du Château d'Avel.
D'accord, ok.
T'as pas essayé ça, Mathieu?
Non, j'ai jamais essayé, mais j'en ai entendu parler, effectivement.
C'est très très bien, je pense que c'est passé un tout petit peu inaperçu. C'était il y a 2 ans ou c'était l'année dernière? J'ai un doute, c'était il y a 2 ans.
Ouais, je pense,
C'est, genre des gros mots, ce qu'on appelle un land crawler, un truc d'américain, là, où on joue des héros avec des armes, des boucliers, et on se balade dans le royaume pour aller combattre des créatures. Et à la fin de la partie, il y a le grand démon de la lune obscure qui descend sur le monde d'Avel pour aller attaquer le château et on va devoir le défendre. Donc genre de jeu qui est fun, qui est rigolo, mais qui sont souvent difficiles d'accès,
ouais.
Parce que beaucoup de règles, etc. Et là, ils ont réussi à faire quelque chose vraiment à partir de 8 ans. Et si tu veux vivre une grande aventure en famille, les Chroniques du Château d'Avel, pour moi, c'est le top du top.
D'accord.
Avec un, dans un autre propos, moi, que j'ai beaucoup aimé cette année, mais qui va donner les mêmes sensations de jeu, le Kyoto no Neko.
Ah oui, Kyoto no Neko.
Qui change totalement de ce genre de thème, mais qui est aussi un land crawler où, avec des petits chatons.
Mm.
Pour moi, c'est deux jeux qui viennent rendre accessible un genre qui est très difficile d'accès en général, parce qu'avec trop de règles, avec trop de choses dans tous les sens. Donc ces deux jeux-là sont vraiment très bien. Donc ça, c'est pour toutes les vieilleries qu'on fait en ce moment.
D'accord.
Et j'ai ramené un peu de travail à la maison quand
même. Ah, quand même.
Quand même, parce que ça fait plaisir. Donc, ça, c'est pas encore sorti en boutique. On a fait quelques parties de Dead Cells. Toute la grande team, là, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Dead Cells, donc à la base, c'est un jeu vidéo qui est adapté en jeu de société. Du coup, ça va être assez original. Alors, encore une fois, tu vas te moquer moi, Mathieu.
C'est du coopératif.
Jeu coopératif, voilà. Avec une approche roguelite, ce qui est très rare dans le jeu de société. C'est-à-dire, on va passer son temps à perdre un petit peu. Tu avances, le jeu est dur, tu perds, tu recommences. Mais entre chaque partie, tu vas pouvoir acquérir des choses et améliorer tes personnages.
Ouais.
Et améliorer la facilité de l'exploration du jeu. Donc tout le jeu tourne là-dessus, tu débloques des choses tout le temps. Et t'enchaînes des parties, c'est assez grisant. Ils ont réussi à bien adapter ça. Hein. C'est vraiment une adaptation parce que c'est pas possible de reproduire tel quel
le jeu vidéo
d'action très speed avec beaucoup d'adresses. Donc là, ils ont fait quelque chose de plus stratégique avec un petit peu de guessing. On va jouer des cartes en simultané, c'est de deviner ce que jouent nos partenaires. Mais ils ont réussi à garder une sorte de temps de jeu assez court pour pas que tu joues une heure, te prendre une raclée, c'est un peu frustrant. Donc t'es plutôt sur les parties de 20-30 minutes que tu vas pouvoir enchaîner. Donc c'est assez efficace et j'imagine qu'il aura un beau succès cette année, le Dead Cells.
Ouais, oh oui, c'est sûr. Parce qu'en plus, si t'es fan de jeux vidéo et de jeux de société, je pense que tu vas aller sur ce jeu.
Ça risque de parler à pas mal de gens, ouais. Et après, la petite surprise à laquelle on a pas mal joué, c'est Let's Go to Japan,
ouais,
de Josh Wood. Ouais, ça, j'étais assez surpris, c'est très efficace.
C'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément et ça va cartonner. Alors, je sais pas si ça va vraiment cartonner parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de boîtes, hein, si j'ai cru comprendre le truc. Ça a l'air d'être compliqué pour avoir des boîtes de Let's Go to Japan.
J'ai eu un peu le même son de cloche, effectivement. Nous, en tant que boutique, moi, je suis resté un petit peu calme face au jeu. Je l'ai trouvé bien, on ne s'est pas emballé. La boîte est un petit peu chère, on est quand même sur 55€ en prix de vente. Mais le jeu est très bien. Alors, Tom, c'est rigolo, je pense qu'il pleura plus ou moins. Ça dépend des gens, on doit organiser son voyage au Japon.
Mm.
Donc, on va avoir un gros tableau de bord devant nous avec les jours de la semaine. On va faire une sorte de draft assez original. Donc, le draft, c'est on sélectionne des cartes et on en refile à ses voisins pour jouer des cartes dans son tableau et organiser tout son voyage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir faire gaffe à plein de paramètres. Quand tu joues une carte dans une journée, il faut que l'activité colle un peu avec les prérequis de la journée.
Mmh.
Il y a une journée un peu mieux pour faire du shopping, une journée un peu mieux pour faire des balades. Donc, essaye de matcher ça. Les cartes, elles sont liées soit à Tokyo, soit à Kyoto.
Ouais.
Si t'arrêtes pas de switcher d'une carte à l'autre, faut prendre le train à chaque fois, c'est fatigant.
Ouais.
Faut aussi essayer de faire gaffe à ça. Donc plein de petits paramètres, mais le jeu est assez limpide. Il reste fluide malgré ça, et je pense que en 20-30 minutes, tu peux facilement te faire des parties.
Oui, c'est assez rapide.
C'est rapide, c'est efficace, et t'as vraiment des dilemmes sur comment jouer tes cartes. Tu te prends un tout petit peu les petits nœuds au cerveau parfois. Et après, l'édition est chouette. Le côté voyage au Japon, je trouve qu'ils l'ont très bien géré.
Les illustrations sont top. Enfin,
des super illustrations à chaque fois. Du texte, si t'es un joueur un peu lent autour de la table, t'as un peu de lecture en attendant sur toutes tes cartes pour apprendre des choses sur le Japon. Donc, belle surprise. Très cool.
Eh ben, super.
Et après, c'est bon pour toi ?
C'est bon pour moi. Après, si t'en as un petit dernier.
Eh ben, j'avais ramené aussi parce que juste avant de partir en vacances, est arrivé Magic Maze Tower.
Ouais.
Donc Magic Maze, pour moi, ça reste une des grandes références du jeu de société, pareil, de ces dernières années. Magic Maze, c'est ce jeu coopératif.
Coopératif.
On doit essayer. Ouais, encore une fois, on doit essayer de s'échapper d'un labyrinthe en déplaçant les pions, mais sans parler. Donc c'est ouais. une ambiance assez particulière, assez déjantée. Et là, l'auteur Casper Lapp a fait quelque chose de plus classique. Mais j'ai fait quelques parties, c'est très efficace. Il s'est concentré sur le côté casse-tête.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc on a des pions avec plein de pouvoirs de spécificité, un labyrinthe différent à chaque partie qu'il faut essayer de comprendre, des pouvoirs à déclencher. Et là, t'as vraiment ce plaisir de « Attends, comment je fais pour réussir
à passer là en faisant passer l'autre avant ?» Enfin, c'est...
Ouais, il y a tel pion qui permet de lancer tel autre, l'autre peut se téléporter que s'il y a un pion à un autre endroit. Donc, faut bien réfléchir à ta séquence. Si les gens cherchent un casse-tête en solitaire, c'est vraiment, je pense, nickel.
Ouais.
Ça évoque un peu la gamme des smart games, ce genre de choses, mais vraiment pour adultes. Et je trouve le boulot est nickel. Et avec la bonne idée, quand même, de rajouter une possibilité de jouer à plusieurs.
Oui, oui, il y a un système
donc,
pour jouer à plusieurs.
Faut pas se fâcher. J'ai pas encore essayé, mais là, tu peux jouer sans te parler et t'attends que l'autre comprenne ce qu'il doit faire. Je pense que ça peut être un peu frustrant.
Oui, voilà, c'est ça.
Et vraiment, même, je trouve un petit effort sur la mise en scène. Chaque partie, tu vas enchaîner plusieurs niveaux. Et une fois que tu les as réussis, tu vas tous les retourner, les assembler. Et ça te fait un niveau
géant
final à réussir à accomplir avec la possibilité de tourner, de pivoter les plateaux, ce genre de choses. Donc, vraiment un casse-tête exceptionnel, je pense.
Ouais. Ouais, ouais. On aura l'occasion d'en reparler de Magic Maze Tower. Merci beaucoup, Jonathan. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, salut Mathieu, salut à tous.
Ou tu seras peut-être encore en vacances.
Non, je retourne à la boutique.
Tu retournes à la boutique.
Il y a trop de travail, là.
Oui, là, tu m'étonnes. Ça va arriver, là. Merci, Jonathan. À la semaine prochaine. Salut.
Salut tout le monde.